Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Bavure policière, que dit la loi à ces sujets? Nous avons en ligne Maître Rufin Luko Musobao, il est juriste, chercheur et en droit et écrivain. Maître Luko, bonjour.
Bonjour, Jody Kassama, bonjour, Antoine.
Bienvenue dans cette émission. Nous allons également recevoir au cours de cette émission Maître Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, et Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine des défenses des droits de l'homme. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de la traite des personnes. Comment lutter efficacement contre la traite des personnes ou l'esclavage moderne? Nous en parlons, nous allons en parler dans la deuxième partie de cette émission, à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Vous voulez participer à cette émission? Composez le 081 890 63 94, écrivez-nous à service@radiokapi.net. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde, Tati Mapoku assure la coordination et la réalisation de cette émission qui présente Jody Daniel Kachama. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiokapi.net.
Bien, nous parlons aujourd'hui des bavures policières et militaires. On assiste depuis quelques temps à la recrudescence des bavures policières à Kinshasa. Ces fautes lourdes ont toujours caractérisé et discrédité les agents de l'ordre. Elles ont pour conséquence les pertes en vies humaines. Au mois de juillet dernier, deux jeunes hommes, dont un étudiant de l'université de Kinshasa, ont été tués à bout portant par des éléments de la police à Kinshasa. Des incidents qui n'honorent pas la police, qui a pour mission de protéger les personnes ainsi que leurs biens. Alors que prévoit la législation congolaise en cas de bavures policières et militaires? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec nos invités. Nous commençons avec Maître Rufin Luko Musobao. Il est juriste et chercheur en droit et écrivain. Maître Luko, encore une fois, bonjour.
Bonjour, jeudi, bonjour à tous encore.
Alors, comment la loi définit, qu'est-ce qu'on entend par bavure policière et militaire?
Merci, d'avoir visé, n'est-ce pas, ce sujet qui est d'une importance capitale pour la population. Il ne faut pas seulement citer Kinshasa, il y a également l'Ituri, le Kivu, le Katanga, le Kasai, le Grand Congo, la Rwanda-Occidentale. Je veux citer rapidement des cas où l'Ituri, un policier a assassiné le Kivu, son chef qui était major de la police. Ça s'est passé également dans les procès du Katanga où celui qui était présumé avoir assassiné le chef de l'État avait été tué par l'un des membres de la garde républicaine, notamment le premier éducateur à l'époque. Et donc, il y a beaucoup trop de cas comme ça qui, depuis longtemps, les uns ont été jugés d'autres non, et que vous appelez la police, appelle ça bavure, la presse appelle ça bavure. Mais pour les codes pénal militaire congolais, c'est d'abord meurtre, ce sont des violences qui sont exercées par ces policiers. En violation de l'infraction qu'on appelle, ou de la loi qu'on appelle, le respect des consignes. Parce que l'armée, la police, on connaît, colonne vertébrale principale, c'est la discipline. Donc, en dehors du fait que les militaires sont soumis au code, les militaires et les policiers, ils sont soumis au code pénal militaire, ils sont également soumis au règlement militaire, enfin, sur les textes de loi qui le régissent, ils sont également soumis principalement aux consignes de la hiérarchie. Le respect des consignes. Et souvent, chaque fois qu'il y a bavure, il y a donc une violation des consignes de ce que les autorités de le gouvernement, le cas de la police. Les ports des armes, des guerres partout par la police, nous les dénonçons sur ces antennes, ça fait une dizaine, une vingtaine d'années, et déjà une violation des consignes parce que les policiers, en principe, ne peuvent pas circuler avec des armes de guerre. Il y a des armes dissuasives et non des armes de guerre. Et non, non seulement ils ont des armes de guerre, avec des balles de guerre, des balles létales. Et ça fait que lorsque
alors, Maître Ruffin, Maître Ruffin Louko, alors on peut comprendre par là qu'une bavure, c'est une faute lourde que commet un militaire ou un policier en violation des consignes.
Et d'ailleurs, le code pénal militaire prévoit que ces violations de consignes, lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, elles sont passibles de la peine capitale. Lorsque les violations de consignes sont commises, par exemple, à l'est du pays, où il y a l'état de siège, il y a Nitorie et Onorkivu, eh bien, ces violations de consignes sont passibles de la peine capitale. Pour vous dire combien c'est grave, vous pouvez éviter une consigne, parce que, par exemple, tirer à bout portant, c'est une violation de consigne. Le militaire n'est pas tiré, ne peut pas tirer. Bon, les policiers, à la limite, peuvent tirer pour la dissuader, c'est tirer à l'air. Mais la plupart de ces militaires et policiers tirent à bout portant, tirent sur la population, tirent donc pour tuer et cibler les vies humaines. Donc, ça, c'est une violation de consigne, vous voyez. Et lorsque vous voyez les statistiques de notre registre pénal de la justice militaire, vous verrez que la grande infraction qui est commise par le militaire, c'est la violation des consignes. C'est-à-dire, la violation des consignes est l'infraction principale de notre armée et de notre police. La violation des consignes, donc le non-respect des consignes. Donc c'est cet esprit généralisé qui est à la base de toutes ces barrières. Vous vous rappelez des faits qui avaient été faits lors de l'opération que Kanyama avait dirigée sur la ville de Kinshasa. Et tout ce qui a eu comme base dans cette opération, et j'ai pas cité d'autres opérations où chaque fois, vous rappelez même dans l'arrestation de mémoire d'enseignes, tout ce qui a eu comme bavure en termes de pillage, le pillage aussi c'est une bavure. Mais le bavure, c'est pas seulement pour le tuer, le bavure aussi, c'est dans cette violation des consignes en ce qui concerne l'atteinte aux propriétés. Ce n'est pas seulement à la vie, mais aussi aux propriétés, tout ça sont des bavures. Et vous savez, chaque fois que nos policiers sont envoyés, la plupart des policiers sont envoyés dans des missions, il ne manque que rarement de bavures. Il ne manque que rarement de bavures. Mais parce que, tout simplement, les policiers ne respectent pas pour la plupart les consignes que la hiérarchie a données.
Bien. Nous parlons des bavures policières, donc ce sont des fautes lourdes en violation des consignes. Alors prenons pour le cas de cet étudiant de l'université de Kinshasa qui était en train de faire un TP avec ses amis et son assistant. Et le policier est arrivé, il a exigé de l'argent et après, bon, il est revenu avec ses amis pour saisir le matériel. Et après, bon, l'irréparable est arrivé. Alors pour ce genre de cas, qu'est-ce que la loi prévoit comme procédure pour ce qui est arrivé?
Non, ce qui est arrivé, c'est on appelle ça bavure, mais c'est-à-dire le policier a tué, a usé de son arme, il a tué. Rappelez-vous aussi l'état de la force, ce qui s'est passé à l'époque, où à cause du cache-nez, la personne n'avait pas de cache-nez, la police a tué, il y a une mordomme. Vous voyez, c'est tellement grave, cache-nez, mordomme. Parce que tout simplement, la ligne n'a pas été respectée. On se retrouve par rapport à la situation. C'est une bavure ou mordomme. Vous ne pouvez pas savoir une version qui concerne l'assassinat de l'étudiant dans la famille qui a une version, il y a la police qui a une autre. Et l'enquête seule va nous dire quelle est la vraie version. Pourquoi les policiers en exigence des frais qui devraient être payés pour parce que les policiers auraient exigé de l'argent, pourquoi vous tournez ça? Vous devez payer de l'argent. Donc cette demande-là de l'argent. Et à dégénérer, parce que les étudiants n'ont pas d'argent, ils ont des pour tourner dans la périphérie du campus ou dans la périphérie de Kinshasa. Il avait à obtenir l'autorisation des personnes. Et malentendu, là, on a ouvert le feu, les policiers ont ouvert le feu. Et vous vous rappelez que ces policiers ont fouillé à l'effet de son arme. Donc, c'est cet ensemble-là. Et l'erreur principale, l'omission principale des autorités du gouvernement, c'est de mettre à disposition la police. Ou qu'ils soient des armes de guerre qui sont en même temps servies. Donc, ils sont dotés de munitions de guerre, de munitions létales. Et c'est que, si l'étendue de l'urgence nationale, telle que la situation est celle-là, on aura de la peine à mettre fin au bavure. De cette situation-là, je crois que les procès dont les enquêtes ont été immédiatement diligentées pour nous permettre de savoir quelle est la vraie version de
dommage que la presse, vous, ne relayez pas ce genre de procès. Comme c'est fait là, n'est-ce pas, c'est toute l'actualité de la semaine, il faut que lorsqu'il y a procès, que toute la presse dise à la population, voici ce que la justice a retenu, pour qu'on le sache comment ça s'est passé et qu'on tire les leçons. On doit, le gouvernement doit se réunir pour décider est-ce que doit-on continuellement. Et ça, c'est presque le mal de toute l'Afrique. Hein. Dans toute l'Afrique, vous verrez dans tout le pays, la police, bon, mais, bon, évidemment, ce n'est pas tout, ce n'est pas généralisé, parce que déjà, au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, même à Brazzaville, les policiers, les gendarmes n'ont pas d'armes de guerre, ils ont des matraques. Chez nous, principalement, lorsque vous avez des pays comme le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, je ne cite que cela, où la police a des armes de guerre, et ça, évidemment, c'est un grand risque pour la population. Et nous voyons, c'est ce qui est chargé de protéger la population, celui qui désire le grand mal. Donc, on a plus peur de la police, n'est-ce pas, que des criminels. On
peut d'accord, maître Louko.
Alors que la police est notre salut, l'armée est notre salut, parce que ce sont les forces de défense et les forces de protection. Lorsqu'ils doivent faire peur à la population par rapport aux différences, c'est-à-dire, il faut que ça s'arrête par une intervention du gouvernement d'Haïti.
Bien. On va accueillir les auditeurs. Benjamin nous appelle de Kananga. Malunga est à Bandundouville. Vous voulez participer à cette émission? Eh bien, composez le 081-890-6394. Nous parlons aujourd'hui des bavures policières et militaires.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos interviews.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable dans ces pays n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Bavure policière et militaire, que dit la loi congolaise à ces sujets? Nous avons en ligne deux auditeurs. Nous avons Benjamin de Kananga et Malunga de Bandundouville. Benjamin, bonjour. Bonjour Benjamin. Allô, Benjamin, vous êtes là? Il n'est pas là. Malunga de Bandundouville, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à notre professeur qui nous enseigne le matin ici la loi.
Voilà, donc là, il s'agit de Malunga et pas Benjamin. Sûrement, Benjamin est sur notre ligne. Alors, allez-y, Malunga, on vous écoute.
Oh, ok, merci beaucoup. En tout cas, Jody, je vous remercie d'abord d'avoir coïncidé ce sujet à la situation que nous vivons aujourd'hui ici. Bon, je commence d'abord à répondre ou bien à fournir aussi les arguments selon les propos de notre invité. Oui, ce qu'il vient de nous expliquer, oui, c'est comme ça. Mais moi, je vois que si ce que la police et notre armée fait à l'égard de nous, la population, c'est suite au manque de la vulgarisation de la loi fondamentale de notre pays. Vous voyez, il nous dit que la police n'a pas porté l'arme. Alors, mais elle porte ça. Vous voyez l'étudier, moi, suite à l'imprudence des policiers, l'autre qui a tué son commandant, hein, suite à l'interdiction, non, on ne peut pas faire entrer quelqu'un dans les cachots suite au manque de cachets. Il tire directement. Ici, chez nous, aujourd'hui, je vais vous informer. Le matin, ici, dans un quartier de Bandundouville, ici au port Sable, à l'entrée de la ville, il y a eu un mort d'un homme comme ça, qui servait à ramasser les qualités. Bon, il était vraiment à demi, il n'était pas vraiment vraiment normal. Bon, un vendeur des ododo, il avait emprunté un demi goutte de 200 francs. À cause de 200 francs, c'est ça, chamaillé. En se chamaillant, il l'a bâti et il a trouvé la mort. Ce vendeur de l'eau de la a fui. Aujourd'hui, est à panique. Aujourd'hui, je vous l'ai dit le matin ici. Or, moi, je l'ai dit, c'est
qui. Qui a tué ce vendeur de Zododo? Un policier?
Non, ce n'est pas un policier. Il a tué un faiseur comme ça.
D'accord.
Qui nous aide aussi.
D'accord.
Qui nous aide aussi à faire des choses là-bas.
Quelle est la question?
La situation, c'est ceci. La population craigne que peut-être il y aura revanche de la policière. Moi, je l'ai dit ceci. J'ai dit non. Revanche devrait être si le meurtrier n'était pas connu. Comme le meurtrier est connu, mais il a pris la fuite, là, on ne peut pas venir arrêter tout le monde comme ça. Aujourd'hui, comme nous sommes habitués à voir nos policiers de faire ce qu'ils ont fait, surtout de tuer, aujourd'hui, toute la population est en fuite. Ils étalaient déjà leurs marchandises, ils faisaient déjà leur occupation journalière, mais lorsqu'ils ont entendu que si les paroles de la police terminent, tant que la police descendra là-bas pour menacer la population, je vous dis, c'est panique. Suite à quoi?
D'accord. Alors, quelle est la question rapidement? La question que vous adressez à l'invité rapidement.
Bon, la question c'est celle-ci. Et la préoccupation. La loi congolaise n'est pas vulgarisée aux bénéficiaires. Surtout, ce sont les chefs qui connaissent ça, mais la population.
Donc, il y a besoin de vulgarisation de la loi. Merci beaucoup. On va donner la parole à Pierrot Pagna de Lubumbashi. Bonjour, Pierrot. Pierrot Pagna, bonjour.
Invité et à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Moi, je suis né pendant le règne du fait président Mobutu. Je connais et je suis un enfant qui a grandi tout près du camp militaire. Nous, à l'époque, pour trouver un policier ou un militaire, il fallait que nous puissions nous rendre dans un camp. C'est ce que nous ne voyons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous habitons le même quartier, la même parcelle avec un policier. Et ce policier-là, il a l'arme dans sa maison. Et lorsqu'on avait des sérieux problèmes à Lubumbashi de bandits à main armée, souvent on accusait que c'était les policiers, les soldats qui faisaient ce genre de pratiques-là. Mais par après, on a constaté que peut-être c'est leurs enfants qui utilisaient le même arme-là. Son papa était avec ça et l'enfant commençait déjà à manier. Là, il va commencer à entrer dans des portes des gens pour tracasser, pour voler. Alors, nous avons trouvé que nous avons des lois dans ces pays, mais ces lois-là souffrent d'application. Comment imaginer, je dis, un policier qui va s'inscrire, il va aller pour être policier avec une mission que yo au salaire Kingamabe. Je peux dire en swahili que urinifanya mubaya ntakuingiria mu la police au armée utaona.
Donc il devient policier pour se venger.
Une mission. Il n'est pas là il n'est pas parvenu à être policier parce qu'il fallait protéger les gens. C'est parce qu'il avait quelque chose, un compte à rendre à quelqu'un.
D'accord. Alors, quelle est la question que vous adressez à l'invité par rapport à cela?
Voilà. Moi, j'ai une question que je voulais poser. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce bavir-là est causé par l'État? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de test qu'on peut faire à un policier avant qu'il soit, qu'on lui donne le tenis et les armes, pour rassurer que ce monsieur a une bonne moralité?
Bien, merci.
Si cela est facile, est-ce que l'État ne peut pas prendre aussi charge? Parce que c'est lui qui ne connaît pas et recruter les gens. Parce que même au football, on demande à un coach que donne-nous la philosophie de tes joueurs. Et le coach va faire ce recrutement-là sur base de sa philosophie. Mais nous partout, on nous a envoyé des Kuluna à Kanyama Kasese qu'on transforme des policiers. Ces gens-là, est-ce qu'on a la moralité?
Bien, et ils ne feront
pas ce qui se fait aujourd'hui.
Merci, Pierrot.
Je vous remercie.
Merci, Maître Rufin Lucon.
Oui, bon, évidemment, donc, je comprends. Je sais d'abord déjà que la situation entre la police et notre population est une situation qui depuis un temps est une situation contractuelle. Notre population ne fait pas confiance totalement à la police.
ça fait longtemps par rapport à toutes ces bavures, il y a donc une détérioration de la confiance de notre population. Ce qui fait que souvent, sur le terrain, lorsque notre population intervient, elle n'a pas l'appui de notre population. Notre police n'a pas l'appui de notre population parce que souvent la situation est conflictuelle. Alors donc, ce qui fait que la police, chaque fois qu'elle intervient, elle est exposée à faire intervention et usage de l'arme de guerre parce que tout simplement, l'appui de la population est limité par rapport à l'ensemble des problèmes. Donc, pour trouver une solution rapide à ce problème-là, donc c'est qu'il faut repenser, on l'a dit dans plusieurs conférences, dans plusieurs ateliers, dans plusieurs formations, qu'il faut repenser la relation civilo-militaire, vous vous rappelez, entre la police et sa population, parce qu'il n'y a aucune réussite de cette police, notre police, lorsqu'elle n'a pas l'appui de la population. Une fois que la police intervient pour aller arrêter un criminel, c'est la population qui soutient la police, c'est la population qui soutient les criminels, et donc celui qui a violé la loi plutôt que de soutenir sa police. Et tout cet ensemble-là fait que on a de la peine, n'est-ce pas, à servir bien la population et laisser la police en même temps sans armes de guerre. Donc voilà la dichotomie de la situation. Comment on peut laisser cette police seule? Parce que cette police n'est pas soutenue entièrement par la population. Et ce qui fait que chaque fois que la police se retrouve en prise avec la population se défend, et vous avez vu, et il va vivre également de la population qui sera bâtie sur sa police. Et on a toujours été, par exemple, au stade de martyr avec les manifestations de l'église musulmane, où la police gratuitement a été tuée par des criminels qui étaient embusqués dans cette population-là au stade de martyr. Donc, tout cet ensemble-là nécessite que le débat soit mis sur le banc, sur la table, pour que nous puissions, quelle est l'option, est-ce que doit-on définitivement doter de la police inutilement des armes dissuasives, notamment les matraques et les autres, comme dans d'autres pays, ou bien, si c'est une cible, quelles sont les situations dans lesquelles la police peut être dotée des armes de guerre?
Alors, lorsqu'un policier ou un militaire commet une bavure, il y a mort d'homme, est-ce qu'on peut parler de meurtre à ce moment-là?
Oui, évidemment. Chaque fois qu'il y a une mort d'homme, c'est un homicide. Chaque fois qu'il y a une mort d'homme, c'est un homicide. Et cet homicide-là est traité par la justice selon les circonstances et les conditions dans lesquelles vous avez tiré. Parce qu'il y a des conditions dans lesquelles vous tirez, c'était pour blesser et dissuader. Mais si vous avez tiré à bout portant sur la tête de la personne, dans la poitrine, donc vous ciblez la tête de la poitrine, c'est que vous avez tiré pour tuer. Et ça, c'est un meurtre. Donc, dans tous les cas d'espèce de ce genre de tuerie, ce sont des meurtres et la justice est compétente pour sanctionner les auteurs de la plupart de ces derniers bavures où la justice est intervenue à condamner, n'est-ce pas, à la peine capitale ou à plus de 20 ans ou à la perpétuité des hommes qui ont été à la base de ces bavures. D'ailleurs, pour le cas de celui qui a abattu l'étudiant de la faculté de l'aide de communication à l'université de Kinshasa, c'est clair que la peine capitale pourra être prononcée parce que notamment il a tué, il est parti, il a fui. Donc vous sentez l'intention a été caractérisée par cette fuite. Et donc, notre justice, surtout celle militaire, elle est implacable là-dessus. Et donc, elle fait ce que la loi lui demande de faire et ce que la population attend chaque fois qu'il y a eu meurtre. Vous vous rappelez le dossier, n'est-ce pas, du ministre, l'ancien ministre de l'Intérieur de la province de Kinshasa, où le militaire n'est pas revenu, n'est-ce pas, ne s'est pas fait appeler ou plier, et il a prononcé les peines correspondantes à ce comportement-là où les civils ont poussé des militaires à commettre des crimes. Tout ça, ce sont des bavures. Et donc, notre justice est toujours au rendez-vous. Et là, on ne encore une fois à notre justice militaire.
Bien. Et là, qui peut porter plainte pour ce genre de cas? Est-ce qu'il faut une plainte ou bien directement la justice s'est saisie du cas?
Alors, la justice, c'est souvent, comme ça crée, n'est-ce pas, tollé, ça crée un émoi dans la population. Souvent, la justice, notre, ça fait pas un arrêtement dans le cas de Ndosho, dans le quartier Ndosho, Keshero, il y a eu ce genre de choses. Et la justice était saisie, la justice de l'économie de la maison, pour condamner les policiers qui étaient à la base de ça. Et ça s'est passé également à Bukavu. Donc la justice, c'est souvent, c'est saisie d'office. La justice militaire, souvent, elle est créée, non seulement dans sa souplesse, saisie d'office, mais aussi la population peut la saisir, ou l'autorité publique peut saisir également la justice. Donc, dans tous les cas d'espèce, le fiat d'avis, la population est appelée à immédiatement saisir la justice, soit par une plainte ou par une citation directe, ça peut être une citation directe, c'est-à-dire de saisir directement le juge, ou la plainte peut être déposée, soit à l'auditeur de garnison, l'auditeur supérieur, ou aux autorités, ou aux inspecteurs judiciaires, pour que la justice puisse être actionnée. Parce que, c'est-à-dire, c'est-à-dire demande que la justice puisse agir immédiatement pour dissuader les autres. Alors, il faut toujours alerter la presse pour que la presse nous alerte tout le monde et que les autorités se saisissent du cas et saisissent immédiatement la justice.
Bien, Maître Rufin Louko Moussoubao, juriste et chercheur en droit écrivain et écrivain, merci, nous vous disons merci d'avoir participé à cette émission pour parler des bavures policières et militaires. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Okapi Rotrou. Pour revivre le tube des années 60, 70 et 80.
Balingi Babina, musique Africa.
Africa.
Rumba, pop, disco, slow. Des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Lundi et mardi à partir de 23h et le dimanche à 21h.
Bien, nous parlons des bavures policières et militaires dans Okapi Service. Que dit la loi à ces sujets? Nous avons en ligne Maître Jean-Claude Katendi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Association africaine des défenses des droits de l'homme, AZADO. Alors, vous avez suivi ces derniers temps, il y a eu recrudescence des cas des bavures policières. Il y a un étudiant qui a été abattu à bout portant, ainsi qu'un autre jeune dans un des quartiers populaires de Kinshasa. Alors, qu'est-ce qui explique cette montée des cas des bavures policières? Comment expliquez-vous cela?
Je vous remercie pour m'avoir invité à cette émission. Et je pense que votre question, elle est non seulement importante, mais aussi intéressante. Les raisons peuvent être situées à plusieurs niveaux. Le premier niveau pour moi, c'est en ce qui concerne le recrutement même des policiers. Et vous savez que à un moment donné, on avait pris dans la police tout le monde qui s'est présenté. Et quand vous en parlez avec la population, il y a eu même des chègues qui ont été recrutés dans l'armée, dans la police, je voulais dire, sans avoir un niveau suffisant pour comprendre quels sont les enjeux. Et surtout, quand un policier doit pouvoir porter l'arme, ça doit être quelqu'un de responsable. Donc, à ce niveau-là, il y a eu certainement des problèmes. Le deuxième niveau, c'est encore au niveau même de la police. Est-ce que ces policiers ont des formations, ont un encadrement suffisant pour pouvoir se comporter de manière responsable? Ces deux niveaux-là me permettent de dire que souvent, les policiers ne sont pas recyclés, ne sont pas formés par rapport à la maîtrise de soi, ne sont pas formés par rapport aux questions de droits de l'homme, parce que c'est important. Donc, à ce niveau-là, il y a des problèmes. Mais il faut dire aussi que il y a des problèmes du côté de la population. Compte tenu de certains comportements des policiers, les citoyens sont toujours sur leur garde, parce qu'on sait que la majorité des policiers, quand ils vous interpellent, c'est pour vous arrêter, c'est pour vous intimider, c'est soit pour prendre les effets que vous avez sur vous. Ce qui crée déjà au niveau de la mentalité de la population,
une crise de confiance,
une tension à l'approche d'un policier ou d'un homme en tenue. Et ça, c'est vraiment, pour moi, des raisons qui expliquent que ces bavures puissent avoir lieu. Le policier n'est pas considéré par la population comme quelqu'un qui vient pour nous apporter la sécurité, les secours, la protection, mais comme quelqu'un qui vient pour nous agresser, pour nous intimider, pour prendre ce que nous avons, ce qui est contraire à la mission qui est confiée à la police par notre constitution, qui est la mission que je rappelle de protéger les citoyens et leurs biens, de pouvoir maintenir l'ordre et de restaurer l'ordre public.
Alors, est-ce qu'on peut dire un policier qui commet une bavure et il y a un mort d'homme, est-ce qu'immédiatement il mérite la peine de mort?
Non. D'abord, je dois dire que les bavures, c'est un terme générique, mais ces bavures peuvent être, par exemple, des coups et blessures, ça peut être l'arrestation arbitraire, ça peut être un meurtre, ça peut être un assassinat. Et quand ces genres de choses arrivent, il faut vraiment qu'on évite ce qu'on appelle la justice populaire. Personne dans notre pays n'a reçu, aucun citoyen n'a reçu la mission de pouvoir se rendre justice lui-même. Il y a les cours et tribunaux, côté civil comme côté militaire, qui ont seuls la charge de pouvoir rendre service. Mais je rappelle que les citoyens ont reçu, de la part de loi de notre pays, la possibilité de neutraliser. Neutraliser ici ne veut pas dire tuer, d'arrêter une personne qui vient de commettre une infraction si dans le parage il n'y a pas un agent de l'ordre ou il n'y a pas un magistrat ou un OPJ avec cette obligation de conduire directement la personne vers l'autorité. Pour dire que seuls les tribunaux, les cours des tribunaux peuvent rendre justice, peuvent condamner quelqu'un. Aucun citoyen, quelle que soit la raison qu'il puisse avoir, ne peut justifier de pouvoir tuer quelqu'un qui vient de commettre une infraction ou de pratiquer la justice populaire.
Bien, mais prenons le cas de ce policier qui a pris la fuite. Que peut être la procédure au niveau des cours et tribunaux?
En fait, pour les policiers qui a pris la fuite, la première chose est qu'il faut qu'on ouvre les enquêtes. Qu'on ouvre les enquêtes au niveau de la justice militaire, de l'auditorat militaire, pour pouvoir mettre la main sur ce policier qui a pris fuite. Maintenant, selon ce que nous avons appris, il y a eu soit des coauteurs, soit des complices. Eux, ils doivent être jugés comme les faits étaient flagrants. Je pense que la justice aurait dû organiser pour les cas de flagrance le procès immédiatement pour que de tels faits ne puissent pas rester impunis. Surtout que aucune loi dans notre pays ne permet à un policier de tuer un citoyen pour n'avoir pas porté le masque. Et en même temps aussi, je rappelle à nos concitoyens que parce que nous connaissons la mentalité de nos policiers, il faut que nous puissions nous protéger aussi nous-mêmes. C'est-à-dire, quand nous sortons de la maison, nous devons avoir l'amabilité de porter notre masque et le porter correctement. Et pour les policiers, je rappelle seulement qu'ils doivent avoir la maîtrise. C'est vrai que quelqu'un peut être, n'est pas en possession de son masque, mais il faut d'abord l'écouter pour savoir quelle est la raison qu'il avance du fait qu'il n'a pas porté le masque. Mais ce qui arrive le plus souvent, c'est que les citoyens peuvent avoir des arguments plus solides que ceux qui sont employés par le policier, et le policier n'ayant pas un autre moyen de se défendre va recourir à son arme, ce qui n'est pas acceptable. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut former les policiers, qu'il faut leur apprendre la maîtrise de soi et ils doivent se comporter en toute responsabilité.
Bien, on va accueillir deux auditeurs, Héritier de Bounia et Glody de Bandonouville. Héritier, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui Daniel Kachama, bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Je voudrais dire que si les policiers se comportent de très mal face au chef, alors combien de fois se comporterait devant un citoyen lambda qui n'a rien, qui n'a aucun moyen de défense, Là, la question que je voudrais poser à l'invité, je voudrais savoir, est-ce que ce sont les policiers qui se recrutent eux-mêmes ou bien les policiers sont recrutés par les inspecteurs supérieurs de la police? La deuxième question, est-ce que le recrutement, est-ce qu'on tient pas, parce que nous regardons que souvent ceux qui se deviennent des policiers, ce sont les gens qui prennent du tabac, ce sont les gens qui, qui ont fait des crimes. Par exemple, les coulures à tout. On a ramassé tous les coulures à Kinshasa, on les a amenés à Kanyamaka, c'est pour la formation. Comment devrait se faire la formation pour que de telles bavures ne se répètent plus? C'est des questions-là que j'avais vous poser.
Bien, merci. On va donner la parole à Glody de Bandounouville. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quelle est votre question, Glody?
Merci pour la parole accordée. Moi, je pense que le bavure policière, ça devient une monnaie courante dans notre pays. Moi, je pense que, généralement, si vous regardez la majorité des policiers de la RDC n'ont pas eu le temps d'être au bas de l'école, tout comme au bas de l'université. La majorité des policiers n'ont pas étudié. Quand vous dites en français, c'est comme si vous l'insultez, sa mère, donc il agit autrement. Moi, je pose la question à l'invité pour savoir quelles sont les conditions qu'on peut recruter un policier. Parce qu'au Congo, vous allez voir quelqu'un qui a fait des crimes et jusqu'après, il se retrouve à la police. Alors, il continue à faire des crimes avec ses casquettes de la police. C'est un peu anormal, c'est pas du tout sérieux. Moi, je voudrais juste poser la question. Si l'invité peut nous énumérer, quelles sont les conditions qu'on peut recruter un policier? Parce que si vous arrivez, par exemple, dans les différents pays du monde, vous allez se rendre compte que les contrats, ce sont des policiers qui sont là pour sécuriser la population et leur bien. Mais ici, au Congo, la nuit, se met de croiser avec un coulon avec un policier. Parce qu'un policier va vous faire du mal. Mais un coulon, si vous croisez avec lui, vous l'expliquez, peut-être il peut vous comprendre. C'est ça que moi, je déteste. Moi qui vous parle, là, à plusieurs reprises, j'ai été victime de cette bavure policière-là. On m'a confisqué plusieurs téléphones ici dans la ville. Imaginez-vous, pendant la patrouille, vous croisez avec des policiers, on vous confisque les téléphones, on vous laisse. Le contraire, c'est eux qui peuvent me protéger. C'est pas du tout normal, c'est que moi, je déteste dans notre pays. Alors, je n'ai pas beaucoup de questions à poser. Quels sont les critères qu'on peut recruter un policier réellement? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, si la police lance les offres d'emploi, vous allez se rendre compte que c'est tout le monde qui se présente. Mais il ne tient pas aussi le compte de niveau de titre. Il prend des ordres. C'est pour cela, trop de crimes, il y a trop de réalités.
Alors, bien, quels sont les merci.
Critères qu'on peut recruter un policier?
Merci,
c'est
Glody.
Ça que je voulais poser.
D'accord.
Merci, je vous remercie.
Charles, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour. Charles, vous êtes là?
Oui, bonjour, Jody. Bonjour, c'est à l'OJT.
Bonjour, Charles. Quelle est votre question par rapport aux bavures policières et militaires?
Oui, il est connu de tout le monde que la justice élève une nation. Et dans notre pays, la justice militaire est même plébiscitée parmi l'une des meilleures d'Afrique. Mais, une question qui dépasse notre attendement, monsieur Jody, est celle-ci. La justice militaire, qui est parmi la meilleure d'Afrique, est même plébiscitée. Et sur le terrain, nous voyons comment ils sont redressés en cas d'une faute lourde, par exemple. Mais comment les bavures ne font que continuer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'homme civil congolais se sentent à l'aise et sécurisés en cas d'arrestation, au lieu d'assister aux tortures, de récupération de tout ce qui trouve dans les poches des citoyens. Alors nous demandons à Maître qui est l'invité, qu'est-ce qu'il faudra faire cette fois-ci, parce que la vraie correction militaire, elle est là. Les militaires sont vraiment punis, nous sommes même témoins. Mais qu'est-ce qui manque encore pour mettre fin aux bavures? Voilà un peu ce que je voulais demander.
Merci. Benjamin de Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jolie Daniel. Bonjour à l'invité, bonjour à tous les invités de la Radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux bavures policières?
Merci beaucoup, monsieur Jolie. Moi, je me demande pourquoi, parce que le comportement de la police nationale aujourd'hui, monsieur Jolie, reste à déplorer. Et jusqu'à moi, je me demande, est-ce que réellement la police comprend son rôle qui est celui de sécuriser la population et le maintien de l'ordre, monsieur Jody. Parce que nous avons beaucoup de lois dans ce pays, mais qui jusqu'alors souffrent d'application, même au niveau du sommet de l'État, monsieur Jody. Alors, en rapport par rapport à la question que je viens de me poser, j'ai des témoignages. Pas plus tard que le samedi dernier, j'ai trouvé dans l'une des avenues un policier qui était dans les services civils. Il a arrêté une fille de moins de 20 ans. Pourquoi? Parce que cette dernière ne portait pas les cachets. Vous vous imaginez? Un policier très ivre que jamais m'était jeté. Maintenant, il a commencé à s'engager la fille. Subitement, je suis arrivé là-bas. Quand je demande qu'est-ce qu'il y a, le policier va commencer à me gronder. Très ivre qu'il était, m'était jeté. Maintenant, moi, je me dis, je suis en train de me dire, est-ce que normalement, la réglementation que nous avons, la législation congolaise, prévoit qu'un policier peut arrêter une personne un balancier sérieux de la COVID-19 en tenue civile pendant qu'il est même ivre. Il n'a pas fait un ordre d'émission. Ça, c'est une question. Un deuxième témoignage, le même samedi, là, vers les soirs, monsieur, jeudi, il y a un policier qui a tiré une petite fille comme ça, de moins de 15 ans, toujours dans le même quartier. Et au moment que je vous parle, la fille-là est opérée. Bon, je ne sais pas si elle va survivre ou pas. Donc, vous comprenez que le comportement de la police aujourd'hui reste à déplorer. Mais nous avons le ministère de l'Intérieur dans cette pays, monsieur, jeudi. Qu'est-ce que le ministère l'a fait? Et parfois, on procède au recrutement de d'autres de policiers. Je me demande, est-ce que la loi autorise qu'un policier soit muni d'une arme? Parce que nous pensons que c'est vraiment un militaire qui doit porter une arme. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Mais c'est aujourd'hui, je vois même les policiers qui n'ont jamais été formés, c'est tenir les armes et ils se promènent avec ça.
D'accord. Merci, Benjamin. Merci Benjamin. Donc Monsieur Jean-Claude, Maître Jean-Claude, vous avez suivi les témoignages et les questions, les préoccupations des auditeurs. Vous avez la parole.
Merci. Je pense que les préoccupations des auditeurs sont tout à fait fondées. Mais nous ne devons pas oublier une chose, que ce ne sont pas tous les policiers qui sont mauvais. Ce ne sont pas tous les policiers qui commettent des bavures. Il y en a quelques-uns, et cela ne peut pas nous permettre de jeter un discrédit sur l'ensemble de la police en tant que corps. Mais fort malheureusement, les mauvais, les brebis galeuses au sein de la police, elles sont plus nombreuses que les bons policiers. Maintenant, par rapport aux préoccupations des auditeurs, je dirais qu'un policier ne se recrute pas lui-même. Il y a la police qui doit en fait recruter les policiers. Et je pense qu'il y a quand même un minimum, il doit y avoir un minimum de niveau intellectuel, de niveau scolaire qu'un policier doit pouvoir avoir. Mais sachez aussi que chaque fois qu'on appelle au recrutement des policiers, les gens qui ont bien étudié, les parents qui ont des enfants qui ont étudié, qui peuvent servir dans la police, beaucoup de ceux-là n'y vont pas. Et ce sont toujours les jeunes désœuvrés, les jeunes qui n'ont pas étudié, qui sont les premiers à saisir l'opportunité. Ce qui n'est pas mal, mais je pense qu'il revient à la police de pouvoir respecter les conditions que la loi fixe pour le recrutement d'un policier. Et que dans les cas où on recruterait, par exemple, des personnes qui n'ont pas un tel niveau, de pouvoir assurer leur formation. Ça, c'est vraiment important. La formation, elle est importante. Mais au sein de la police, on doit pouvoir aussi lutter contre l'ivrognerie. Nous savons que beaucoup de policiers s'enivrent. Et même les policiers de roulage, quand vous les rencontrez, dès qu'ils s'approchent de votre véhicule, quand il vous parle, vous avez l'impression que vous avez fait affaire à une brasserie. Donc, de ce côté-là, oui. Il est important qu'on regarde cet aspect. Aussi, nous savons que les policiers prennent du chanvre. Hein, il y a même des policiers qui se droguent. Donc, il faut qu'il y ait un contrôle. Sans ce contrôle-là, ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous avons dit la semaine dernière qu'il faut aussi qu'on puisse mettre en cause le général Kasongo, parce qu'il est quand même à la tête de la police ici à Kinshasa, et quand la police se comporte mal, on ne peut pas continuer à garder les mêmes supérieurs. Il faut quand même qu'on voie si vraiment le leadership au niveau de la police ici à Kinshasa est assuré de manière responsable. Et j'insiste sur la formation. Et en ce qui concerne les conditions, mais on ne peut pas recruter des policiers sans conditions. C'est pour ça que j'estime personnellement que les études, c'est quand même quelque chose de très important, surtout quand un policier a affaire à tout le monde, à ceux qui ont étudié, à ceux qui n'ont pas étudié, et tout le monde n'est pas obligé de s'exprimer en Lingala, en Chiluba, en Kikongo, en Lingala. Et le français étant la langue officielle de la République démocratique du Congo, les policiers doivent fournir un effort pour, n'est-ce pas, pouvoir l'apprendre et éventuellement maîtriser cette langue pour éviter, comme l'un des auditeurs a dit, des accrochages, parce qu'il y a des policiers qui sont allergiques au français. Dès que tu te mets à parler en français, tu oui. l'énerves. Donc, on doit tenir compte de ça. Maintenant, oui. pour ce qui concerne le cas particulier de contrôle des ports des masques, je pense que les policiers qui sont commis à ce contrôle-là, ça ne doit pas être tous les policiers. Il faut qu'il y ait un nombre de policiers bien formés qui doivent faire ce contrôle-là et je pense qu'ils ne doivent pas être porteurs d'armes à feu. Il faut vraiment bannir ça dans le cadre du contrôle lié au port du masque parce que nous constatons que ce n'est pas la première fois ici à Kinshasa qu'on ait tué un Congolais pour n'avoir pas possédé un masque. Je me rappelle même l'année passée vers Tchangou là-bas, il y a eu un monsieur qui allait à l'hôpital la nuit, qui n'avait pas de masque, il a été arrêté, mis au cachot, et le lendemain, il s'est retrouvé mort. Donc, vous voyez, ce genre de choses. Je pense que même quand il y a une personne qui ne porte pas le masque, il faut l'entendre. Il faut l'entendre et essayer d'analyser est-ce que ce qu'il dit, ça tient debout, est-ce qu'il y a lieu de lui demander, par exemple, d'acheter un masque. C'est pas seulement de demander l'argent, d'amener quelqu'un au poste de contrôle ou au souci-là. Donc, il faut un peu d'intelligence dans tout ça, parce que nous avons vu que même certaines autorités violent le couvre-feu. On ne leur fait absolument rien. Mais quand il y a un citoyen, pour une raison ou une autre, qui ne porte pas son masque, il est quand même important que le policier ait la capacité d'analyser la situation afin de pouvoir voir quelle est la décision qu'il faut prendre.
Alors, est-ce que la loi autorise un policier de porter une arme létale ou bien il doit seulement avoir des armes non létales pour dissuader, par exemple, certains manifestants?
Je pense que dans le cadre, par exemple, de couverture des manifestations publiques, je crois qu'il n'est pas important que le policier puisse porter les armes à feu. Il y a d'autres instruments qu'ils peuvent utiliser pour maintenir l'ordre ou encadrer les manifestants. Surtout dans notre pays où nous avons vu qu'il y a eu trop de débordements de la part de la police. Mais comme je le disais, il est important que les policiers qui sont commis au contrôle des masques ne soient pas porteurs d'armes à feu.
Bien, mais les autres peuvent être munis d'armes à feu.
Maintenant, ça dépend de quel service ils sont en train de faire. Par exemple, on voit qu'il y a des policiers qui sont commis à la protection soit de certaines autorités, soit de certains immeubles ou de certains magasins ou de certaines affaires. Donc ça dépend de la mission qui est confiée aux policiers. Mais pour maintenir l'ordre, je ne pense pas que ce soit utile que les policiers soient porteurs d'une arme à feu.
Alors pour le cas de ce policier qui a donné la mort à un étudiant et qui a pris la fuite, mais ses coéquipiers ont été... on les a arrêtés. Que peut être la condamnation pour ces... Est-ce qu'on peut parler d'une complicité et on peut les condamner pour quelle faute ou pour quelle infraction?
Bon, je pense que il y a la possibilité soit qu'ils soient poursuivis comme co-auteurs. Ça dépend maintenant de comment les faits se sont déroulés. Les magistrats devront les écouter pour savoir quel est le rôle qu'ils ont joué dans le meurtre qui a été commis. Et par rapport au rôle qu'ils ont joué, ils peuvent être soit traités, poursuivis pour complicité, soit comme co-auteurs.
Et que peut être la sanction, maître?
Dans ce cas-là, bon, vous savez, il y a beaucoup d'éléments qui vont intervenir. Vous savez que dans notre pays, la peine de mort n'est plus appliquée et que si ils sont poursuivis comme co-auteurs, ils subiront la même peine que celle qui va être réservée à l'auteur principal. Et la même chose s'ils sont complices. Donc, ça veut dire en d'autres termes qu'ils seront condamnés à perpétuité. Voilà, mais il faut tenir compte du fait que le magistrat instruit à charge et à décharge, et on peut éventuellement retenir en leur faveur des circonstances atténuantes ou aggravantes, mais aussi on peut retenir des circonstances aggravantes. Tout ça, ça va jouer dans le déroulement du procès pour soit qu'on les condamne à la peine maximale ou à la peine minimale.
Bien, Maître Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine des défenses et droits de l'homme, AZADO, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Bien, on va suivre tout à l'heure les informations et nous allons nous retrouver juste après pour la deuxième partie de ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de votre fidélité.